Donc, j'ai à cœur de vous partager donc une priorité dans notre vie. Et la priorité dans notre vie, c'est celle de se purifier. Hein. On a déjà chanté cela tantôt. Donc, se purifier, c'est très important. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, si vous voulez bien. Enfin, j'espère que vous voulez bien. J'espère qu'on... On ne choisit pas ce qu'on va écouter. Parce que quand on est sur Internet, c'est bien, parce qu'on pourrait regarder les thèmes, dire, ça, non, je ne veux pas regarder. Ah, ça, c'est un thème qui m'intéresse. Mais ici, on n'est pas sur Internet. Malheureusement. Pour ça d'être. Donc, une priorité dans notre vie, se purifier. Je crois que c'est très important. Les gens pensent, on peut penser en tout cas, et les personnes en général dans la société, quelle qu'elle soit, dans l'église ou dans la société, pensent être des bonnes personnes en vivant comme bon leur semble ou comme leur semblable. Il y a de ça, hein. Je pense qu'on peut avoir une bonne conscience quand on voit qu'on n'est pas dissemblable aux autres. Et tant que nous n'avons pas été confrontés à la parole de Dieu, on peut penser que tout va bien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui évitent peut-être de lire la parole de Dieu parce que, bon, ça rallume quelque chose, ça éveille quelque chose. Donc, il est des fois préférable pour certaines personnes trouvent préférable de ne pas la lire. C'est mieux. Alors, pourquoi devrait-on changer quelque chose à notre façon de vivre et de voir la vie? Pourquoi est-ce qu'on devrait changer? Si nous sommes devenus chrétiens, ce qu'a fait Jésus à la croix peut nous suffire en nous disant que Dieu fait grâce. Et puisque Dieu fait grâce, il est un Dieu de pardon, et finalement, notre vie, ça nous regarde, et nous faisons quand même ce que nous pouvons. Je n'ai pas dit ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous pouvons. Et je vais dire, la majorité des gens font ce qu'ils peuvent. Avec les lumières qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont, des fois ils ne vont pas aux bonnes sources, donc ils sont ce qu'ils sont. Nous sommes aussi ce que nous sommes par la grâce de Dieu, mais on peut être chacun ce qu'il est par la force des choses, parce qu'il n'y a pas eu de regard où personne ne les a orientés pour les aider. Alors, Dieu veut des changements en 2019 dans nos vies. Et nous allons voir en 2 Chroniques 28, vers 736 avant Jésus-Christ, un roi qui s'appelle Akaz. Alors, je vous donne un petit préambule pour que vous puissiez comprendre un petit peu qui était Akaz, au roi de Juda. C'est juste avant Ézéchias. Il est le père d'Ézéchias. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il est en conflit avec le royaume d'Israël et celui de Syrie et il demande de l'aide au roi d'Assyrie à la place de demander de l'aide à Dieu, au lieu de chercher du secours auprès du Seigneur. De plus, en allant là-bas en Assyrie, il a vu un peu comment le culte idolâtre se pratique et il se dit, waouh, l'autel, il est bien là. Waouh, c'est pas mal. Je vais en faire le même pour Jérusalem. Et il envoie le plan. Il n'y avait pas encore d'appareil photo, il n'y avait pas encore d'iPhone, mais enfin, il demande à quelqu'un de faire le croquis, etc. Et il envoie le plan, et avant qu'il revienne à Jérusalem, on l'avait déjà construit. Déjà, les artisans l'avaient déjà reconstruit exactement à l'identique. On va ôter l'autel de l'Éternel, la cuve des reins, tout ça, on va mettre ça sur le côté, on n'a plus besoin, et on va faire les sacrifices là-dessus. Et c'est comme ça que ça va commencer, continuer plutôt, il va devenir complètement idolâtre. Il va prendre ses dieux de ses pays. Et il va se rendre coupable d'idolâtrie. Son royaume vivait dans le désordre physique, moral et spirituel. Akaz fut le premier en Israël à faire passer son fils par le feu. En 2 Rois 16, verset 3. Il fait carrément passer son fils par le feu. Et comblant la mesure, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement fâché contre Dieu, parce qu'il n'a pas eu de victoire espérée, Et finalement, il se trouve bien avec les Assyriens, qui ont quand même répondu à ses attentes en attaquant le roi d'Israël et jusqu'à Samarie et en attaquant les Syriens. Donc il se dit, ben, c'est que leurs dieux sont mieux que le mien. Et finalement, il adopte le culte idolâtre des Assyriens et il ferme les portes du temple. Finalement, le temple, ça ne sert à rien. Ferme les portes du temple. Après avoir rempli le sanctuaire de souillure et d'impureté, il en interdit l'accès. Il en interdit l'accès. Il mourut sans repentance et ne fut pas jugé digne d'être enterré avec les rois de Juda. On ne va pas le mettre, sa sépulture, avec les autres rois. C'est à ce moment-là que l'Éternel permit l'exil des 10 tribus d'Israël. Donc, dans le même temps, donc vous savez que le royaume d'Israël était divisé en deux, il y avait deux royaumes séparés. Hein, depuis, après Salomon, il y a eu le royaume du nord et du sud, avec Roboam et Jéroboam, et puis des successions de des lignées de rois, plus ou moins, donc la lignée de David à Juda. Et du côté du nord, les 10 tribus vont justement être déportées. Il y a eu un exil, en tout cas, il y a une partie qui restera sur leur terre, mais une grande partie partiront en exil par les Assyriens, conduite par les Assyriens. Et en Juda, la conduite d'Akas n'était pas différente. Alors, le même sort aurait pu arriver à ce moment-là à Juda. Exactement. Quelle culpabilité énorme avait Akas. Et pourtant, ça n'arrive pas. Et incroyable, son fils, ça va faire vraiment mentir le proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Vous avez déjà entendu ça. Hein? Ah, les gens sont très forts pour dire ça. Hein? « Tel père, tel fils ». Eh bien, c'est faux ici. Tel père, tel fils, c'est faux. Il y a Akaz et il y a Ézéchias. Et Ézéchias, il est tout différent dans sa manière de voir les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? À peine sur le trône, sans perdre de temps, Ézéchias entreprend avec des sacrificateurs et des lévites un travail urgent de purification. Et même les lévites se grouilleront davantage que les sacrificateurs. Ils prendront plus de temps, les sacrificateurs, à se purifier. On verra cela. Et on va lire ça dans 2 Chroniques 28, si vous voulez bien. 2 Chroniques 28 au verset 24. Akas rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Akas se coucha avec ses ancêtres, son fils Ézéchias devint roi à sa place. 2 Chroniques 29, verset 5. Ézéchias, roi de Juda, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel, en tout point comme avait fait David son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Il les assembla sur la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel et lui ont tourné le dos. » Ils ont même fermé les portes du vestibule. Ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le lieu saint. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem, et il en a fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voici que nos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant, donc il pense à ceux du Nord, hein, il pense à ceux du Nord. parce que ça ne faisait qu'un peuple. Maintenant, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors les Lévites se levèrent. Ils assemblèrent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple du premier mois, le huitième jour du mois. Ils entrèrent dans le vestibule de l'Éternel et mirent 8 jours à sanctifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils entrèrent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, la table, aux rangées de pain et tous ses accessoires. Nous avons remis en état et sanctifié tous les objets que le roi Achas, dans son infidélité, avait profanés pendant son règne. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Chapitre 30, verset 8. « À présent, ne raidissez donc pas votre nuque comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront de la compassion auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. » Car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce, il est compatissant et ne détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. Amen. Alors, quelques leçons, on va essayer de tirer quelques leçons de ce magnifique texte extraordinaire. Alors, comme Ézéchias, remettons Dieu à la première place dans nos priorités. Hein, que dans nos priorités, Dieu puisse avoir la première place. Que veut dire déjà Ézéchias, Yeshis Kia? C'est vrai qu'on peut le traduire en hébreu de 4 manières, donc voilà, c'est une. Yeshis Kia signifie l'Éternel est ma force. Enfin, il y a 4 mots apparentés au nom Ézéchias. Hein, donc, on ne va pas faire tout ça parce que ça va prendre longtemps. Donc je vous épargne tout ça. Signifie l'Éternel est ma force, l'Éternel qui dépossède, soumet, se rend maître, conquiert. Dieu est ma force. Moi je l'ai paraphrasé comme ça. Dieu est ma force pour soumettre ma vie entière à Dieu. Dieu est ma force pour soumettre ma vie entière à Dieu. Waouh. Donc, l'Éternel qui dépossède, soumet, se rend maître, conquiert. Que nous puissions être des conquérants pour amener, non pas pour faire simplement des choses extraordinaires. Hein. Parce que bien souvent, les conquêtes, c'est pas nous, c'est conquérir quelque chose et faire la conquête de nos vies pour le Seigneur. C'est se donner. Et c'est autre chose qu'un fait de notre vie glorieux, on va dire comme ça, où j'ai fait un truc, hein, et ça je peux m'en vanter, et vous savez, dans ma vie j'ai fait... Est-ce que tu as déjà fait la conquête de ta vie pour la donner au Seigneur entièrement, et la purifier, et tous les jours, ça c'est ça. Dieu est ma force pour soumettre ma vie entière à Dieu tous les jours. Je voudrais rajouter ça, tous les jours, et à partir d'aujourd'hui. Puisque la parole est entendue aujourd'hui, alors c'est à partir d'aujourd'hui, s'il y a des choses à remettre en ordre, qu'on puisse commencer aujourd'hui. Si certains ont déjà commencé depuis très longtemps, tant mieux. Mais alors, qu'ils puissent prendre appui sur cette parole pour continuer. Alors, deuxième leçon, comme, avec son nom, bien sûr, mais deuxième leçon, comme Ézéchias, recherchons la face du Seigneur et sa faveur. Donc Ézéchias, c'est un homme qui va rechercher le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Bien sûr qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il aurait pu faire comme Akas en disant, tout compte fait, les religions païennes sont pas mal. Ça va, on est dans le désarroi, mais enfin bon, tout le monde est un peu dans le désarroi. Il y a des problèmes pour tout le monde. Il aurait pu réfléchir comme son père. Et se dire finalement, Dieu n'a rien fait pour nous, autant aller vers les faux dieux. Vous savez, l'Église est au milieu du monde. Hein. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Et le problème qu'Israël a eu, que Judas, hein, Israël et Judas, ont eu, c'est d'être influencés par le monde environnant. Et c'est exactement la même chose pour l'Église. Nous sommes dans un combat. Un combat où quelqu'un va gagner. Le monde va gagner sur nous, ou nous allons gagner sur le monde. Mais ce n'est pas seulement des paroles, c'est des actions. Et il nous faut devenir des disciples. Des guerriers aguerris qui prennent leurs responsabilités et qui prennent toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister et devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Ils ne deviendront pas simplement parce qu'il y a une prophétie, tu deviendras ceci, tu feras. C'est beau tout ça, hein, les belles prophéties qui concernent un avenir glorieux. Moi j'aime bien me rassasier de ces choses-là, je te montrerai des choses que tu ne connais pas. C'est beau, mais si je ne fais rien avec ma vie, que je ne fais pas des efforts moi-même, que je ne me pousse pas en avant. Des fois, on a besoin d'un coup de pied au derrière pour avancer. Des fois, on a besoin d'une aide extérieure, mais à un moment donné, on doit marcher par la foi. On ne doit pas toujours attendre que Dieu nous parle par révélation pour faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a besoin de la révélation de la parole de Dieu. Elle éclaire tout homme qui s'approche de Dieu. Mais à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités. Et ça, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Et nous voyons en verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait David son père. » Non pas son père Akas, mais son père David. On remonte les générations là. Hein. « C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. » Il fait exactement le contraire de son père. Son père avait fermé les portes. Alors, ce n'est pas par esprit d'opposition. Enfin, entre père et fils, il peut y avoir des il a fait ça, mais je vais faire le contraire. C'est pas ça. C'est vraiment aller dans le sens de ce que Dieu voit comme étant bon. Il recherche la face de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, il est allé vers la parole. D'ailleurs, il était dit que le roi devait avoir une copie de la loi et la lire jour et nuit. Je pense que Ézéchias connaissait la parole de Dieu, parce que la manière dont il exhorte avec compassion les gens, il n'est pas dur, il n'est pas cassant, il n'est pas tranchant avec les gens. Il connaît l'amour de Dieu, mais il connaît aussi la fidélité à Dieu. Il réalise que ça ne va pas bien se passer s'il continue à marcher de cette manière. Donc il recherche, et avant de demander aux gens de rechercher la face de Dieu, il a recherché lui-même la face de Dieu. Il a réalisé les choses avant de pouvoir les dire. Parce que sinon, il n'aurait pas pu être crédible. Et il recherche sa faveur. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Et les répara. Il va les réparer. Peut-être avons-nous également besoin de mettre notre cœur en ordre. Dans ce cas, alors, ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur au Seigneur, qu'il puisse venir réparer à l'intérieur et qu'il puisse peut-être... les portes, d'abord, les portes de l'accueil. Il y a les portes qui... Jésus, il frappe à la porte. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être beaucoup de désordre, beaucoup d'histoires pas claires. Mais en tout cas, si j'ouvre la porte de mon cœur, c'est la première chose. Après, Dieu va faire un nettoyage. Mais si je n'ouvre pas, il n'y a rien qui va se passer. Non, ça ne j'ouvre pas parce que je ne veux pas qu'on sache ce qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas beau. Hein, mais à partir du moment où j'ouvre, wow, alors là, il y a quelque chose, une ère nouvelle qui va s'opérer. Troisième leçon qu'on peut en voir avec Ézéchias, Ézéchias a compris que ce qui doit être purifié en premier est notre vie. Parce qu'il aurait pu dire nettoyez le temple. Nettoyez le temple. Ne voyez pas le temple comme il est sale, dégoûtant, quoi. Faites des choses, quoi. Allez, retroussez vos chemises, les gars. Allez, on y va. C'est d'abord l'état du cœur. Après, on verra, on fera des choses. Mais soyons d'abord des gens purifiés avant de faire des choses dans la purification. Pour les... On aurait plus tendance de peut-être d'analyser ce qui se passe chez les autres. Et parce qu'on est très prompt à juger ce qui est en désordre chez les autres. Vous savez ça? C'est incroyable, c'est pour ça que Jésus dit de retirer la poutre qui est dans notre œil, parce qu'on voit facilement la paille qui est chez les autres. Exactement comme David avec Nathan. Nathan qui a beaucoup d'amour, beaucoup de capacité de d'amener les choses pour dire avec cette histoire de l'homme riche qui avait une seule bête qui mangeait sur elle, une seule brebis, et puis un autre qui avait beaucoup de brebis, énormément, et puis qui reçoit un voyageur, un ami ou quelqu'un qu'il connaît, et il doit offrir un bon repas à son hôte, et il va aller chercher trouver la brebis du voisin qui n'en avait qu'une. Et David est vraiment enflammé de colère. On est facilement enflammé de colère sur la faute des autres. Mais quand c'est sur sa propre vie, on n'est pas facilement enflammé de colère. Quoique David avouera son péché. Hein. Saül était un homme vraiment rempli de colère sur les fautes des autres. Si vous voyez l'histoire de Saül, c'est un homme qui va combattre l'injustice. Mais parce qu'il a quand même fait des choses qui sont valables. Il ne faut pas dire que tout est négatif dans la vie du roi Saül, si on prend Saül. Il va combattre d'une manière féroce l'injustice et le péché, savez-vous, chez les autres. Mais chez lui, non. Chez lui, non. Il va se battre contre la faute des autres. Il va dénoncer la faute chez les autres. Et il ne la voit pas chez lui. C'est incroyable. David a quand même... donc, il ne voit pas au départ. C'est vrai qu'il ne voit pas. Il voit la faute dans l'histoire que Nathan lui dit, hein, de celui qui est coupable. Mais à partir du moment où il s'en rend compte, là, il change d'attitude. Hein, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Hein. Et soyons des hommes au cœur de Dieu qui savons voir à l'intérieur de nos cœurs ce qui ne va pas, plutôt que toujours examiner chez les autres ce qui ne va pas. Et je crois que c'est très important. Ézéchias a compris que ce qui doit être purifié en premier, c'est notre vie. Notre vie. Écoutez-moi, Lévite. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. La première chose, c'est sanctifiez-vous. Puis après, sanctifiez la maison de l'Éternel. Sanctifiez-vous. C'est dans cette mesure-là que c'est quelque chose qui va porter du fruit. Parce que si je ne comprends pas que ma vie est en désordre et que je vais faire de l'ordre d'une manière externe à ma vie, je vais faire comme les gens du monde qui essayent d'avoir le bel étalage, impeccable. Tout est impeccable sauf l'essentiel. C'est-à-dire là où personne ne sait voir, évidemment. Et donc, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, la première chose. En Écosse, une tradition du Nouvel An consiste à nettoyer, c'était dans une parole du jour il n'y a pas longtemps, en Écosse, une tradition du Nouvel An consiste à nettoyer sa maison de fond en comble, à enlever les vieilles cendres de la cheminée et à rembourser ses dettes en cours. Il s'agit d'ôter le vieux pour laisser place au neuf. De temps en temps, il faut nettoyer sa maison spirituelle de la même façon. La Bible dit « Mettez ce qui est impur hors du lieu saint ». Pourquoi ? Avec le temps de mauvaises attitudes et habitudes ou une façon de faire inappropriée s'installe et nous cache ce qui est important. Nous ne pouvons pas penser que si nous nettoyons à fond notre maison et faisons reluire ce qui doit scintiller, elle restera propre pour toujours. Nous avons continuellement besoin d'entretien spirituel en profondeur, car nous vivons dans un monde impur. Comme nos maisons, voitures, vêtements doivent être entretenus, nos cœurs, qui sont nos maisons spirituelles, doivent l'être aussi de façon régulière. Pas seulement pour une semaine, un mois, voire 10 ans, ou une seule fois dans notre vie, nous devons laisser Dieu agir en nous chaque jour pour nous purifier et nous renouveler. Dieu a-t-il accès à chacune des pièces de votre maison ? Si ça fait un moment que vous n'avez pas laissé Dieu sonder votre cœur pour le purifier, priez ainsi, « Seigneur, nettoie mon cœur pour que tu puisses vivre et briller à travers moi. » C'est important. Si je passe à côté de ça. Donc Dieu veut vraiment purifier l'intérieur de nos vies. C'est tellement important. Jésus veut nous responsabiliser afin de purifier le temple de notre corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais avec le temple de mon corps ? Dieu veut purifier ce corps, ce cœur, cette âme, cet esprit, nos pensées, notre conscience. Dans les 4 évangiles, il y a une histoire. On va dire qu'il y a eu 2 histoires dans la vie du ministère de Jésus. Il y a les synoptiques qui parlent d'une histoire à la fin de son ministère, et puis Jean qui situe cette histoire-là au début de l'évangile. Est-ce que Jean est chronologique ou pas ? Ça, c'est autre chose. On n'est pas sûr qu'il soit chronologique. Les autres sont plus chronologiques. Nous voyons Jésus qui se met en colère en purifiant le temple. Lisons en Jean chapitre 2, verset 13. « La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Alors, qu'est-ce qui a mis Jésus en colère ? Alors, il y avait plein de choses. Les commerçants, les gens qui étaient là, c'était quoi ? C'était quoi exactement ? Eh bien, c'était le non-respect de la présence de Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus important dans le temple, c'est la présence de Dieu. Bien sûr, vous allez me dire, c'est aussi le fait que cette maison devait être appelée maison de prière. Et ils en avaient fait une maison de commerce. Que voit-il un trafic ? Des marchands qui vendent aux usagers du temple des animaux sacrificiels pour l'expiation de leurs péchés, alors que Jérusalem n'était pas autorisés à frapper de monnaie en argent, ils ont utilisé des pièces d'argent de la ville de Tyr. Et pourquoi est-ce qu'ils demandaient à ce que ce soit des pièces d'argent de Tyr ? Parce que ces pièces d'argent de Tyr contenaient 95% d'argent. Les pièces romaines, par exemple, 80%. Et donc, ils préféraient l'argent tyrien. Et en plus, bien sûr, quand on venait au temple pour offrir un sacrifice, ils en avaient qui étaient tout prêts, et il suffisait d'abord de changer la monnaie romaine, qui était la monnaie impériale, il y avait la monnaie provinciale, qui est la monnaie grecque, et puis la monnaie locale du temple, qui était juive, entre guillemets, venait de Tyr, en fait. Et donc, on était obligé de changer. Et au travers du change, il prenait évidemment de l'argent sur cette transaction, qui faisait qu'il s'enrichissait sur le cours du temps, quelque part. Donc, ils faisaient du commerce. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y avait plusieurs entrées au temple. Et quelquefois, ils utilisaient les entrées du temple, l'entrée et sortie du temple, pour passer, pour aller plus vite dans la ville, se donner des chemins, des routes au travers du temple, pour aller plus vite. Et ils utilisaient évidemment le temple pour leurs propres intérêts, alors que ça devait être une maison de prière sanctifiée pour le nom du Seigneur. Et combien Jésus était en colère par rapport à ce qu'on faisait de cette maison. Donc Jésus est dérangé par les compromis, le désordre, l'impureté dans la maison de son père. Alors, on peut imaginer hein, les colombes, les béliers, les taureaux dédiés aux sacrifices mêlés aux hommes, la poussière, les excréments, la paille, les cris, les interpellations, les bousculades, que de saleté, que d'impureté dans la maison de Dieu. Alors que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos vies? Qu'est-ce que Dieu voit à l'intérieur? Y aurait-il des objets, des animaux, des autels impurs, des trafics malhonnêtes qui pourraient mettre Jésus en colère? Hein? Les dieux qui peuvent exister parmi les hommes, c'est quoi? C'est le travail, la famille. Ça peut être un dieu si on met la famille au-dessus de Dieu, la TV, le bénévolat, le sport, la bonne bouffe, l'alcool et toutes ces choses, ces loisirs qui prennent la place de Dieu. La place de Dieu doit être la première dans notre vie. Alors, les animaux impurs, ça peut être des péchés non confessés qui peuvent être inconscients, des actes et des comportements qui sont loin d'être irréprochables, de mauvaises habitudes, sans parler des paroles. Des additions, des abus, toutes ces choses, quels sont les marchands, les mauvaises relations que je continue à entretenir dans ma vie, les gens qui me polluent, des fois des gens qui me polluent, avec lesquels je traîne, qui n'ont rien à faire avec ma vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Parfois, oui, sous un regard, qui ne dure pas longtemps, on pourrait croire que tout est en ordre, on pourrait croire, mais si on examine chaque pièce dans notre habitation spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il une pièce où on cache encore quelque chose, où on n'a pas envie, on n'a pas simplement envie que Dieu vienne y mettre ses yeux? Qu'est-ce qui reste à ranger, nettoyer? Quel est le truc qui coince? La faute inavouée, le péché qui est tapis et que Jésus veut balayer à l'intérieur de nos cœurs. Alors, est-ce qu'on va attendre que Jésus vienne renverser les tables dans nos vies? Hein, est-ce qu'on va attendre que Jésus prenne son fouet? Non, mais spirituellement parlant, je pense que Dieu nous fait grâce, d'accord? Dieu est un Dieu de grâce, de pardon. Il vient avec nous comme un pédagogue. D'ailleurs, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions changer. Ce n'est pas avec une autorité d'un tyran. Dieu n'est pas un tyran, mais il veut aussi nous attirer à lui et nous dire, mais, écoute, ne reste pas comme ça, parce que si tu restes comme ça, alors effectivement, il y aura un problème. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Nous avons le devoir de jeter dehors toute la souillure tolérée quand le prince des ténèbres régnait dans nos vies. Parce que bon, il y en a qui disent, oh, je suis neutre. J'ai toujours été neutre, j'ai toujours été avec Dieu d'une certaine manière. Mais non, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et avant, on faisait partie du royaume des ténèbres. Et là, on acceptait bien beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Et maintenant, nous avons non seulement le devoir, mais l'autorité de prendre la mesure de toutes ces choses et nous sommes à même de faire ce grand nettoyage que Dieu désire. Alors, le point 5 ici, c'est Ézéchias pointe l'ennemi du travail intérieur que nous devons vaincre. Il y a un ennemi pour ce travail intérieur. Il y a un ennemi. Nous avons un ennemi terrible qui veut nous empêcher de faire ce travail intérieur. Vous savez que c'est qui ? C'est la négligence. La négligence. Le plus facile d'accuser le diable. Hein. Je pensais qu'on allait dire le diable. La négligence. Le manque de prise de responsabilité. Ça, c'est le plus grand ennemi au nettoyage qui ne se fait pas. C'est la négligence. Et le verset 11 nous dit ceci. « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » Cessez d'être négligents. C'est Ézéchias qui dit cela. Cessez d'être négligents. Ne négligeons pas de nous purifier sous le motif que la grâce nous est accordée. La grâce nous est accordée. Hein. Dieu fait grâce, il me pardonne. Je suis pardonné. Hein. Donc ça va. Si je suis un peu négligent, bah, c'est pas grave, c'est un trait de caractère. Je ne saurais jamais changer de toute façon. Je suis né comme ça, je mourrai. Non. Parce que le Seigneur, il veut transformer nos vies. Hein. Qu'est-ce que nous avons chanté tantôt hein? Purifie-moi, change-moi, hein, je veux être comme toi, etc. Alors je suis né comme ça, je vais mourir comme... Non, certainement pas. Certainement pas. Dieu, j'ai pas la force de changer parce que voilà, c'est plus fort que moi. Ben, c'est encore un mensonge du diable. On n'est pas obligé de vivre entre guillemets dans le bordel, Non, Dieu veut transformer nos vies. Il y a une leçon à retenir dans l'expérience qu'a faite Ézéchias avec les sacrificateurs négligents. Si un homme promet à Dieu de ne plus suivre sa volonté, mais décide d'obéir de toutes ses forces à la volonté divine et de le servir, ce qu'on fait quand on passe par le baptême, non ? On attend alors de lui qu'il le fasse. Je vais redire ça, ça vaut la peine. Si un homme promet à Dieu de ne plus suivre sa volonté, sa propre volonté, mais décide d'obéir de toutes ses forces à la volonté divine et de le servir, on attend alors de lui qu'il le fasse, qu'il fasse ce qu'il a dit, qu'il fasse conformément à ses paroles. Alors, encore une leçon, Ézéchiel le rappelle leur identité et leur rôle. Nous avons une identité, nous avons un rôle. Il ne faut pas confronter deux. Hein. Comme je disais tout à l'heure, être et faire, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir qui nous sommes, et puis alors il faut savoir ce qu'on a comme rôle à effectuer. Il ne faut pas toujours être dans le rôle, c'est fatigant. Mais quand je me rappelle qui je suis, ça me donne de force. Parce que qui je suis, c'est aussi mon avenir, aussi ma destinée. D'accord ? Il y a le passé, présent et avenir dans mon identité. Et là, je peux travailler et faire quelque chose de ma vie. Hein ? Je sais bien que il y a des choses que je ne ferai plus une fois que je serai au ciel. Mais sur la terre, j'ai des choses à faire. Mais avant tout, et c'est ce qui est le plus important, c'est mon identité, évidemment. Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, dit Ézéchiel, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le Nouveau Testament à propos de ça ? 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il l'avait prévu. Donc on a été choisi de la part de Dieu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit. Ah, nous faisons partie du peuple saint de l'Éternel. Saint, mis à part, fait partie, nous faisons partie du peuple de Dieu. Ça vous réjouit ou pas? Vous faites partie du peuple de Dieu. Et vous faites partie d'un peuple qui est sanctifié. Sanctifié au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Vous voyez? Vous êtes purifié. Dieu vous déclare saint. Attention, il y a deux choses. Hein. Je suis saint dans le Seigneur par la foi. Mais ma sanctification, je dois la vivre tous les jours. Et je dois rechercher ce qui convient à la sainteté dans ma vie. Donc, être saint, parce que Christ m'a rendu saint, c'est beau, c'est magnifique. Mais ma vie aussi doit correspondre à cet état de sainteté dans le Christ. Parce que sinon, je suis un bon parleur, je connais la parole de Dieu, mais je ne mets rien en pratique. Et je ne suis, je me rends. C'est comme si Jésus a toute la responsabilité de tout faire, quoi. Hein. Il me sauve, il me sanctifie, et moi je me laisse aller. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas mon truc. Et Dieu, lui, il doit faire tout. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche dans la grâce. Je fais rien du tout, et Dieu fait tout. C'est facile, hein, ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais absolument rien du tout. Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Donc, nous sommes sanctifiés, rendus saints devant Dieu, mais en même temps, Dieu nous donne un rôle, celui d'être serviteur, comme étaient les Lévites et les sacrificateurs au temps d'Ézéchias. Nous aussi, hein, parce que Jésus c'est le serviteur de l'Éternel, évidemment, mais nous aussi, nous sommes des serviteurs. Pas seulement Paul qui apportait la parole de Dieu en tant que serviteur de la parole, mais nous sommes tous serviteurs d'une manière ou d'une autre. Serviteurs de la parole aussi pour témoigner son nom à toutes les nations. Hein? Mais serviteurs avec nos mains, serviteurs avec nos vies, avec toutes nos capacités, avec tous les dons que tu nous as donnés. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Étant dit que nous sommes d'abord serviteurs de Dieu avant d'être serviteurs les uns des autres. D'accord ? À partir du moment où je me donne à Dieu, je suis serviteur du Seigneur et je sers les autres. Le premier à être servi, c'est Dieu, et je le fais au travers des autres. Parce que, voilà, ça c'est une question d'amour aussi, mais de service. Hein ? Éphésiens chapitre 6, verset 6, « Obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Obéissez comme des serviteurs de Christ. » Dieu nous appelle, vous allez dire, oui, mais Jésus l'a dit, qu'il ne nous appelle plus serviteurs. Et ça, c'est vrai aussi. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Mais ça ne voudrait pas dire que nous ne sommes plus des serviteurs, nous ne sommes plus que des amis, dans la grâce. Il n'y a plus rien à faire. Moi, je suis un ami du Seigneur, je ne suis pas un serviteur, les gars. Ne me prenez pas pour un serviteur, hein. Je suis un ami du Seigneur. Écoute, non. Je suis un serviteur, d'accord, mais Dieu nous fait savoir les buts qu'il poursuit au travers du service que nous menons. C'est-à-dire que nous devenons des amis. Nous servons avec lui, comme lui a servi. Rappelez-vous que Jésus, il a lavé la pied de ses disciples. Hein, quand même. Hein, c'est pas ça. C'est bon, l'ami du Père, où il ne fait rien, et tout se passe bien sans rien faire. Non, non, il est vraiment l'exemple du serviteur. Hein? Alors, réaction du peuple. Alors les Lévites se levèrent. Est-ce qu'on pourrait tous se lever? Ça va vous faire du bien de vous lever. Mais pas seulement pour vous lever comme ça, mais on est des serviteurs du Seigneur. Est-ce qu'on veut se lever? À un moment donné, ils se sont tous levés. Pas pour partir, hein. Restez encore un peu. Mais nous sommes serviteurs du Seigneur. Dieu veut vraiment nous mettre à son service. Hein. Et afin de nettoyer nos vies, pouvez-vous vous asseoir, merci. Hein. Très gentil. À présent, Et ça, c'est Ézéchiel qui dit ceci. À présent, ne raidissez donc pas votre nuque comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel et servez l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu fait grâce, il est compatissant et ne détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. À présent, donc, donnez la main à Dieu. Hein, on voit souvent Dieu qui nous donne sa main. Donnez la main à Dieu. Allez, faites ce pas aussi de donner la main à Dieu. Voilà. Et servez l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu fait grâce, il est compatissant et ne détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. Je crois que c'est tellement important. Alors, Dieu désire nous faire grâce si nous ne négligeons pas le salut. Hein, ne négligeons pas un si grand salut, hein, dit l'auteur aux Hébreux, qu'il a chèrement acquis pour nous au prix de son sang. Pas de négligence. Pas de négligence, les frères et les sœurs. Je crois qu'il va falloir combattre cette négligence dans nos vies. Pas de découragement. Ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas aller. Quelquefois, on se laisse un peu aller en disant, bon, j'ai un petit bazar dans le coin, mais c'est pas grave. Et puis, ça devient la carte de la place. Et puis, ça prend tout. Et on est submergé par les problèmes qu'on a. Et puis, on ne sait plus faire face. Je crois que Dieu va nous donner la force et la capacité de pouvoir faire face au fur et à mesure. Est-ce que vous le croyez? Je crois que c'est important. Cette nouvelle année, remettons de l'ordre dans nos vies, sans tarder, et ne soyons pas négligents en fatiguant la patience du Seigneur. Je crois que Jésus, il est très patient. Hein, il est plus patient que les hommes. Les hommes ne sont pas très... Mais il est très patient, mais quand même, ne fatiguons quand même pas la patience du Seigneur. Quand on sait qu'il y a des choses à faire, ne mettons pas 50 ans avant de le faire. Hein, soyons prompts et ayons la promptitude des Lévites qui ont été beaucoup plus prompts que les sacrificateurs à se mettre en ordre, à se sanctifier eux-mêmes. Ils avaient commencé le boulot avant les sacrificateurs, puis ils sont arrivés après eux, mais ils ont terminé le travail. Mais à cause de ça, on a dû décaler la Pâque qui devait se tenir au premier mois. Et a dû se faire au deuxième mois. Ils ont dû tout changer, décaler dans le temps. Ils ont quand même fait la Pâque, hein. C'est pas ça, mais voilà, il y avait du retard parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés dans les temps. Et puis, il faut dire que la Pâque n'avait plus été faite depuis un certain nombre d'années. Ils étaient plus fort habitués à tout ça. Donc, il fallait remettre tout en mouvement. Jésus vient purifier, et c'est ce qu'on pourrait dire au Seigneur. Et on va prier, on va courber le front, si vous voulez bien, pour prier le Seigneur. Jésus, nous te demandons de venir purifier tout notre être intérieur. Montre-nous ce qui ne doit pas revenir prendre ta place, afin que tu puisses grandir en nous et que nous soyons irréprochables par ta grâce quand tu reviendras nous chercher. Seigneur, viens purifier notre être tout entier, Seigneur. Seigneur, viens nous donner la capacité, Seigneur, de voir comment faire dans nos vies. Parce que le bazar qui se trouve peut-être dans des lieux géographiques, dans des lieux précis, ce n'est pas le plus important. C'est très important parce que toi, tu veux faire un grand nettoyage. Mais le plus grand nettoyage, c'est dans nos cœurs. Voulons pas que ce soit une maison de commerce, une maison de trafic, une maison où il y a du n'importe quoi à l'intérieur de nos vies, Seigneur. Du n'importe quoi, du laisser aller. Nous ne voulons pas être les bras pendants, ne sachant comment s'y prendre. Mais toi, tu donnes la force, parce que Ézéchias, ça veut dire ce Dieu qui donne la force de tout reconquérir. De tout reconquérir. Nous voulons reconquérir notre vie, comme Ézéchias qui s'est occupé de lui-même d'abord pour se sanctifier avant de le demander aux autres et qui a demandé d'aller plus loin, bien sûr, de mettre de l'ordre dans le temple, de réouvrir les portes et de nettoyer à l'intérieur de chaque pièce. Il a fallu 8 jours pour certaines pièces, d'autres encore 15, etc. Mais finalement, le vestibule et toutes les autres pièces ont été dégagées, nettoyé de fond en comble, remis en ordre. Seigneur, nous te prions vraiment, Seigneur, de nous aider, parce qu'il n'y a aucune tâche qui est impossible. Seigneur, même s'il y a un bazar, un foutoir incroyable, comme au temps d'Ézéchias, et je ne pense pas qu'il y a dans notre vie autant de bazar, de choses impures dans nos vies qu'au temps d'Ézéchias au niveau du temple, que dans le temple de nos vies, Seigneur. Que dans le temple de nos vies, il puisse y avoir, Seigneur, un nettoyage. Viens, Seigneur, nous purifier, Seigneur, de tout ce qui ne doit pas se trouver à l'intérieur de nos cœurs, de nos pensées, de nos façons de vivre. Seigneur, et tu nous aideras à faire le grand nettoyage à l'extérieur, après. Et même s'il faut aider des frères et des sœurs, nous le ferons aussi, mais on va commencer par nous-mêmes. On va balayer devant nos portes. D'abord, on va d'abord faire un nettoyage intérieur, intégral. Seigneur, purifie nos vies, Seigneur. Purifie nos vies, Seigneur. Tu les as lavées par ton sang, mais tu veux que nous puissions retrousser nos manches et voir ce que nous avons à faire. Et prendre des résolutions pour cette année nouvelle. Des résolutions qui tiennent la route. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Si plusieurs veulent prier par rapport à ce message, qu'ils puissent te faire maintenant.